Réveille PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Il est là, comme un seul homme. Mon cher Christian Page, bonne année d'abord.
Ben toi aussi, Bernard. Ça me fait plaisir de te retrouver.
Ah, moi aussi. Vraiment, on a toujours un sourire dans la voix quand on est ensemble. Est-ce que ce sera une bonne année pour les extraterrestres? Il me semble que c'est bien parti.
Effectivement, ça commence plutôt bien. Donc, dans un premier... C'est vrai que durant la période des fêtes, il y a eu beaucoup de nouvelles d'ordre scientifique ou qui nous touchent un peu, mythes et complots. Et les extraterrestres, bien sûr, ont été à l'honneur. Dans un premier temps, disons, faut le mentionner, lundi, la NASA a fait l'annonce de la découverte d'une exoplanète très semblable à la Terre. Donc, une exoplanète, on le comprend, c'est une planète qui gravite autour d'un autre soleil. Tu vas me dire, Bernard, que ce n'est pas la première fois qu'on fait cette annonce-là. Donc, des exoplanètes, au moment où on se parle, on a presque 4000 exoplanètes qui ont été identifiées par les chercheurs de la NASA. De ce nombre, plus d'une cinquantaine d'entre elles se trouvent dans ce qu'on appelle des zones de vie. Bien sûr, on parle de zones de vie en fonction de la vie que l'on connaît ici sur Terre, qui a besoin fondamentalement de l'eau à l'état liquide. Donc, si une planète est trop proche de son soleil, elle perd son eau sous forme de vapeur parce qu'il va faire trop chaud. Et si elle est trop éloignée de son soleil, l'eau se transforme en glace, et ce qui interdit les échanges chimiques qui permettraient l'apparition de la vie. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de vie, toujours, bien sûr, en fonction de la vie que l'on connaît. Or, lundi, la NASA annonce la découverte d'une énième exoplanète qui se trouve dans une zone de vie. Mais ce qui est très intéressant dans cette nouvelle découverte, c'est que la planète dont on parle ici, elle est quand même assez éloignée, diras-tu. Elle se trouve à 100 années-lumière de la Terre, à peu près. Elle se trouve dans le système solaire dit Trappiste 1, hein, et elle gravite autour d'une étoile qu'on appelle l'étoile TOI-700. Donc, c'est une étoile, une naine rouge. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement cette planète se trouve dans la zone de vie, donc elle a peut-être de l'eau à l'état liquide, mais c'est une planète également qui a, par ses dimensions, sa masse, qui ressemble presque trait pour trait à la Terre. Elle est à peine plus grosse que la Terre. Donc ça, c'est fort intéressant. C'est la première fois qu'on trouve une exoplanète dans une zone de vie qui soit, par ses dimensions, si proche de la Terre. C'est très encourageant. Il y a quand même un nombre au tableau. Cette planète, c'est la troisième... autour de cette étoile, la TOI-700, jusqu'à maintenant, les scientifiques, en utilisant le satellite TESS de la NASA, un satellite donc qui est conçu justement pour détecter les variations des lumières des étoiles, parce que c'est comme ça surtout que l'on découvre des exoplanètes. On regarde une étoile et on constate qu'il y a des variations dans la luminosité de l'étoile. C'est parce qu'une planète ou un corps quelconque passe devant l'étoile. Et c'est comme ça, donc, qu'on a localisé ces étoiles. Pour l'instant, on sait qu'il y a au moins 3 planètes qui gravitent autour de cette étoile TOI-700. La problématique, c'est que jusqu'à maintenant, on est pas mal convaincu que ces planètes gravitent sur ce qu'on appelle un orbite synchrone, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même en faisant un tour autour de son étoile. Dans le cas de l'étoile qui nous intéresse, l'étoile TOI-700D, elle prend 37 jours pour faire le tour de son étoile et elle tourne une fois sur elle-même. Ce qui veut donc dire, Bernard, ça peut sembler complexe, mais elle ressemble à la Lune. Autrement dit, elle montre toujours son même côté à son soleil. Ce qui fait qu'un côté de la planète doit être très, très chaud et l'autre côté très, très froid. Ce qui limiterait la zone de vie à une espèce de zone frontière entre son jour et sa nuit. Et tu comprends, c'est toujours une nuit éternelle d'un côté et un jour éternel de l'autre. Oh. Mais entre les deux, dans cette zone d'ombre, il pourrait y avoir des formes de vie qui pourraient s'être développées. Donc, c'est très intéressant, mais il y a quand même une petite ombre au tableau.
Tu pètes notre ballon un peu, là, parce que là, je commençais à me dire, enfin, une planète vers laquelle on pourra se réfugier si jamais la vie sur Terre devient invivable. Mais là, tu viens de me dire, mais Bernard, tes espoirs risquent d'être déçus.
Oui, mais quand même, ça fait une planète de plus à écouter. Et ce qui nous amène à notre deuxième nouvelle blitz astronomique, si je puis dire.
Oui.
C'est que, il y a quelques jours, on a appris que le radiotélescope géant qui a été construit en Chine, là, entre 2011 et 2016, qu'on appelle le radiotélescope FAST, c'est un acronyme, là, en anglais qui signifie en français radiotélescope sphérique de 500 mètres d'ouverture.
Bon.
Tout ça pour dire que c'est une gigantesque parabole, là, qui fait 500 mètres de diamètre. Il est trois fois plus sensible que ce qu'on avait de plus puissant jusqu'à maintenant, qui était le radiotélescope de l'île sur l'île de Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo. Et on le sait donc depuis 2016, ce radiotélescope, qui est très, très performant, déjà au moment où on se parle, il a quand même apporté des nouvelles informations, notamment sur des sursauts lumineux dans l'espace. Mais jusqu'à maintenant, il était en rodage. Donc, il ne faisait pas partie de programmes spécifiques. Il était essentiellement on l'utilisait essentiellement pour faire des tests. Et voilà que durant la période des fêtes, le gouvernement chinois, l'agence spatiale chinoise, a annoncé que les tests étaient maintenant terminés, que le grand radiotélescope, le FAST, allait maintenant être impliqué dans des programmes soutenus, élaborés. Et parmi ces programmes, il y a un programme qui s'appelle le Breakthrough Listen, qui est un programme qui a été lancé en 2015, qui va perdurer techniquement jusqu'en 2025. Il est une initiative du milliardaire russe Yuri Milner. Le porte-parole de ce programme, on l'a bien connu, c'était l'astrophysicien Stephen Hawking. Et l'idée, c'est d'investir 10 millions de dollars pour écouter des endroits de l'espace où il pourrait y avoir des signaux radio provenant de civilisations extraterrestres. Donc, à partir de maintenant, on peut dire que ce grand radiotélescope géant de Chine, dans la province de Guangzhou, va maintenant être utilisé, en partie, il sera utilisé à d'autres fins, bien sûr, mais il va être en partie utilisé en temps d'écoute pour voir si on ne détecte pas des signaux radio extraterrestres. Ça vient s'ajouter déjà à toute une batterie de radiotélescopes un peu partout à travers le monde qui sont utilisés dans ce programme d'écoute de signaux radio qu'on pourrait regrouper sous le nom parapluie de programme SETI, hein, pour Search for Extraterrestrial Intelligence.
Bon.
Il faut quand même le dire, jusqu'à aujourd'hui, on a capté des dizaines de signaux radio en provenant de l'espace, mais aucun d'entre eux n'est suffisamment convaincant pour dire « les extraterrestres nous ont parlé ».
OK, mais là, je veux te parler de la Chine.
Vas-y.
Parce que ton méga radiotélescope, là, qui est en Chine, ça a beau être une initiative internationale, si jamais on découvrait quelque chose, là, tu sais, maintenant, là, une manifestation qui a l'air vraiment beaucoup, beaucoup, là, à une manifestation de vie extraterrestre, mettons.
Oui.
Penses-tu que les Chinois partageraient l'information avec le reste de la communauté internationale? Moi, honnêtement, j'ai des petits doutes là-dessus. Et par ailleurs, il nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on pourra reprendre cette discussion-là dans une autre émission. Mais les Chinois, là, ils n'ont pas l'intention de laisser les Américains être les premiers à aller sur Mars. Hein? Est-ce que je décode bien les signaux que nous envoie la Chine?
Tu as tout à fait raison. Donc, d'un côté, on a cette espèce de bras de fer qui existait entre les Russes et les Américains dans les années 60. Maintenant, il se fait entre les Américains et les Chinois. Qui va être les premiers? D'ailleurs, les Chinois ont envoyé une première sonde sur la face cachée de la Lune. Et là, bien sûr, ils visent un programme vers Mars. Bon, l'idée d'une hégémonie dans l'espace, bien sûr, les Chinois sont en lice. Si tu me parlais, supposons, entre guillemets, un engin extraterrestre qui tomberait entre les mains des Chinois, je suis pas convaincu qu'ils en informeraient le reste du monde, comme je pense la plupart des nations ne le feraient pas. Mais quel serait l'intérêt des autorités chinoises de dissimuler le fait qu'on a capté un signal radio lointain qui laisserait croire peut-être à la présence d'une civilisation extraterrestre? Quelles seraient les prérogatives économiques, philosophiques,
stratégiques
pour ça? C'est difficile. Je suis pas un expert en politique internationale, mais dans le cadre d'une découverte scientifique de cet ordre-là, ce serait difficile de justifier le silence.
Mais des fois, tu sais que la science, parfois, et la politique ne font qu'un. La politique est dans tout, hein, elle est partout. Mais tu allais dire en revanche, en terminant?
En revanche, s'il s'agissait bien sûr d'une découverte qui aurait des retombées à court ou à moyen terme sur de la technologie ou des développements d'ordre militaire, évidemment, on pourrait très sérieusement se poser une question sur la volonté des Chinois de communiquer l'information.
En tout cas, je le signale aux auditeurs et je vous jure que je n'ai pas eu cette discussion-là avec Christian auparavant, donc il va l'apprendre en même temps que vous. J'aimerais ça, Christian, qu'on garde une oreille attentive et une vigilance par rapport à cette course entre les États-Unis et la Chine pour la, appelons ça la deuxième conquête de l'espace, ouais. Et la course vers Mars et tout ce qui tourne autour de la vie satellitaire, par exemple, de l'occupation de l'espace à des fins géostratégiques. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser pour d'autres discussions par la suite. Hein?
Absolument. Les Chinois, c'est le némésis des Américains maintenant par rapport aux Soviétiques des années 60.
Et j'ai bien aimé cette comparaison. Je te souhaite un bon week-end.
Toi aussi.
Je salue Larry Dufresne, qui est toujours efficace, vous l'avez vu, hein? Maryse Duchesneau et Alexandre Marcoux, qui sont non moins efficaces, sont formidables. À lundi, tout le monde.